9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, bonjour et ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de la peur de l'épidémie ou l'épidémie de la peur avec Patrick Soulaï qui est là. Bonjour Patrick.
Hola Philippe.
Formateur en Processcom. Ouais. Et mes amitiés, Madame Soulaï, votre maman qui nous écoute. Spéciale dédicace comme à chaque émission.
Contente, très contente.
Christophe Hague est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour Philippe.
Vous êtes professeur associé en comportement organisationnel, vous vous intéressez au cerveau humain et tout particulièrement à l'utilisation intelligente de nos émotions et de notre intuition dans la vie de tous les jours. Vous avez publié un livre qui s'appelle « La contagion émotionnelle » chez Albin Michel. Alors vous qui aimez bien observer toutes les situations particulières et de crise, qu'est-ce que la crise du coronavirus nous apprend de plus sur la façon dont qu'on a de gérer nos émotions ?
C'est que la peur est extrêmement contagieuse et qu'elle peut devenir planétaire. Et que la peur nous sauve, mais la panique peut nous tuer. Donc il y a une question de seuil à ne pas franchir. Et là, il faut être un peu vigilant.
Alors, ça, ce n'est pas nouveau finalement que la peur soit contagieuse.
Ce n'est pas nouveau parce qu'à la base, toutes les émotions le sont. On sait qu'il suffit à peu près de 21 millièmes de seconde, c'est le temps de projection d'une image au cinéma, pour que deux personnes en fait se contaminent avec leurs émotions, que leur corps et que leurs émotions se synchronisent. Donc ça, on le sait depuis un certain temps, et grâce notamment à tout un tas d'expériences avec l'imagerie médicale, etc. En revanche, je crois que ce phénomène aujourd'hui, dans un monde qui est très psychologique et psychologisant, avec cette proportion-là d'une peur planétaire quoi, par rapport à un virus, je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau et qui déstabilise beaucoup d'entre nous, et y compris nos politiques, qui savent peut-être pas forcément comment gérer tout ça. C'est un espèce d'ennemi qui est invisible, mais en même temps qui vient s'ancrer dans nos têtes, dans nos corps, et qui a des conséquences réelles sur nos comportements et sur notre santé globalement.
Mmh. La peur, c'est une émotion, mais est-ce que la panique, c'est une émotion, par exemple ?
Alors, la peur, c'est une émotion intense qui naît en nous chaque fois qu'on est confronté à un danger immédiat. Alors, le coronavirus est une forme de danger parce qu'il y a des gens qui meurent. On voit aujourd'hui que démographiquement, ça touche pas forcément que les personnes âgées. Et cette émotion-là, elle permet de réagir face à ce danger en revisitant, par exemple, nos habitudes. Donc, on le voit bien aujourd'hui, on essaie de redéfinir notre hygiène de vie pour pas attraper le virus. On se lave un peu plus souvent les mains, des mains d'ailleurs qu'on sert moins aux autres personnes, on va moins dans la foule, on essaie de moins voyager. Tout ça, en fait, est mu par cette peur. C'est cette peur-là, pour nous protéger de ce danger-là, qui nous amène à changer certains comportements. La panique, c'est quand la peur, elle devient extrêmement intense. Et c'est-à-dire que physiologiquement et physiquement, vous êtes à des degrés d'intensité franchis, jamais atteints, quasi à des seuils traumatiques qui font que vous réfléchissez plus du tout, que vous êtes dans un mécanisme automatique, presque d'imitation de la foule, hein, et une espèce de contagion de masse comme ça qui peut se produire, et là, vous commencez à faire n'importe quoi. Et comme je disais précédemment, oui, c'est la panique qui peut vous tuer, la peur, elle vous sauve. Ça, c'est ce que me disait Nando Parado, qui est un survivant de ce crash aérien, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les
Andes.
70. Et voilà, la Cordillère des Andes, vous avez une équipe de rugby qui se crash, donc à bord d'un avion un peu douteux. Et là, vous avez les survivants donc, qui sont pétris de peur et qui, derrière, essayent grâce à cette peur de se sauver. C'est-à-dire que c'est grâce à cette peur-là que vous avez Nando Parado, la personne que j'ai interrogée, qui a décidé de franchir la moitié de la Cordillère des Andes. Donc ça lui a donné de l'énergie, d'ailleurs de l'énergie, de l'espoir. Quoi. Mmh.
Pour aller chercher des secours, en fait.
Pour aller chercher les secours. Mmh. Et Nando me disait, moi j'avais cette peur-là qui était une peur constructive. Elle était positive, cette peur-là, parce que c'est elle qui m'a permis à un moment de me mettre en mouvement. La plupart de mes copains qui étaient restés près de la carlingue, eux, ils étaient en panique totale. Ils étaient paralysés. C'était plus de la peur positive. Là, on était sur quelque chose, à un seuil beaucoup plus grand, et où ces personnes-là étaient prêtes à rester là au bord du truc, à attendre, un miracle, qu'un miracle se produise. Ces personnes-là, si Nando les avait pas cherché les secours, ces personnes-là, aujourd'hui, seraient toutes mortes, en fait.
Là, on le voit, hein, la contagion émotionnelle, c'est une contagion qui va toucher l'humanité, hein, l'humanité entière, cette fois-ci.
Ouais, et puis, en plus, regardez avec les réseaux sociaux, on le voit bien, c'est-à-dire que cette peur, qu'on peut exprimer, que ce soit par des mots, tout simplement, ou par des smileys, ou par des teintes, des couleurs, des cartographies. Aujourd'hui, on voit partout des cartes comme ça, avec les épicentres, les agents pathogènes qu'on repère ici ou là. Bah, ça, c'est du visuel. Et quand ça, vous commencez un petit peu à partager l'information, bah, avec les réseaux sociaux, ça va vite, ça va loin. Ça touche un nombre incalculable d'individus. Et donc, effectivement, cette peur devient une peur de masse, une peur planétaire, qui peut être à force extrêmement usante. Parce qu'il faut se rendre compte que, OK, la peur, elle peut être utile, elle vous sauve d'un danger, etc. Mais si on la ressent trop souvent, et on le voit bien avec cette info-obésité, avec Internet, etc., H24, on reçoit de la peur en intraveineuse, et ça, c'est extrêmement usant. Pourquoi ? Parce que quand la peur vous gagne, vous avez tout un tas de modifications physiologiques qui vont se produire dans votre corps. Vous avez des modifications qui visent à augmenter l'énergie disponible à court terme pour faire face à la menace. Donc, pour comprendre ces modifications, il faut juste savoir deux choses. La première, c'est que nos principales sources de carburant, c'est l'oxygène et le sucre. La seconde, c'est qu'en cas de menace, on a surtout besoin, il s'agit là d'un réflexe qui est vraiment hérité de nos ancêtres, de carburant dans le cerveau pour réfléchir et dans les bras et les jambes pour se battre ou fuir. Donc tout ça est extrêmement énergivore. La mise en place de ce carburant, la distribution de ce carburant. Et donc ça, à un moment, ben, si vous êtes dans une forme de récurrence, si H24 vous avez de la peur, et ben, au bout d'un moment, vous pouvez expérimenter tout un tas de choses assez désagréables. Et ce qui est assez, c'est presque le comble, c'est-à-dire plus vous ressentez de la peur, qui se transforme d'ailleurs en ce qu'on appelle de l'anxiété et qui peut d'ailleurs déboucher sur des troubles anxieux généralisés qui peuvent eux-mêmes déboucher sur des phobies. On le voit bien aujourd'hui, vous avez des phobiques hein, du coronavirus qui vont consommer je ne sais pas combien de liquides, de savon, de machin qui vont dévaliser les rayons. Lorsque vous êtes à un moment totalement drivé, piloté par cette peur récurrente qui est activée trop souvent, eh bien derrière, vous développez de l'hypertension. Il y a de l'élévation de la glycémie qui peut amener de l'hyperglycémie. Et le comble, c'est que vous avez une baisse de l'immunité générale. Et c'est là où ça fait mal parce que ça vous rend encore plus vulnérable au virus du coronavirus. Donc plus vous ressentez de la peur, plus vous êtes un sujet, perméable à ce coronavirus. Donc à un moment, OK, c'est bien de changer d'hygiène de vie, c'est bien de revisiter deux, trois choses. Mais c'est important aussi de s'extirper, de décroter cette peur pour que cette peur ne devienne pas une espèce d'anxiété généralisée qui vous pourrit tout simplement la vie, en fait.
Christophe, qu'est-ce que la peur d'un virus a de spécifique par rapport à un attentat aussi qui est très anxiogène, où les gens ont peur ? Est-ce que ça a quelque chose de...
Ouais. L'attentat, il est très ciblé, c'est-à-dire que ça va se passer dans un lieu précis, presque dans un timing très précis. Ça compte un nombre limité d'individus dans ce périmètre géographique. Là, on est face à un ennemi qui est totalement... Et puis, on peut identifier, il y a des terroristes, il y a des gens qui sont armés, il y a des choses... Il y a un ennemi qui est visible, qui est identifiable. Là, on a une espèce de peur invisible qui se transmet de manière volatile, qui peut toucher tout le monde très rapidement. Et on est sur un espèce de jeu de domino qui peut toucher n'importe qui sur cette petite boule bleue. Donc là, c'est l'aspect, c'est le côté gigantesque en fait de tout ça qui fait peur aux gens. Et on se dit ouais, mais même en étant planqué à la campagne dans un petit hameau, un machin, il suffit que le type il a fait un voyage, un machin, pour boum susciter une espèce de psychose. Et pour qu'il y ait quand même un risque, même s'il est faible, mais que vous l'attrapiez. Et le simple fait qu'il y ait un risque, même faible, on est souvent, nous, riscophobes, hein, on est risque averse, mais le simple fait que le risque existe peut déjà nous contaminer par cette peur. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'ont montré d'ailleurs récemment un groupe de neuroscientifiques, lorsque les circuits de la peur, ils sont sursollicités chez un individu, ben, il y a de gros risques de voir apparaître chez lui non seulement des troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété chronique, mais pire encore que ces troubles ils soient transmis à ses enfants. Et ça, c'est l'enfant qui imite un petit peu les figures d'autorité, notamment la figure parentale, ben, il va se mettre lui aussi à psychoter, à ressentir cette angoisse forte. Et donc là, la crainte que j'ai, moi, en tant que spécialiste aujourd'hui, c'est que avec cet épisode-là qu'on est en train de vivre, c'est qu'on crée aussi une génération d'hypochondriaques qui, derrière, chez qui ces alarmes-là vont retentir un peu trop souvent, qui vont les user, qui vont les consumer à petit feu. Et aujourd'hui, on essaie de combattre cette espèce de trouble qu'est le burn-out. Bah, je pense que là, on va créer une génération assez fragile et qui sera voilà, peut-être plus encline à ressentir ce fameux burn-out qui vous amène dans des cliniques privées plus tard, à déambuler dans les couloirs de ces hôpitaux comme des zombies totalement médicamentés et à ressentir des choses très peu agréables et qui vous désocialisent et qui ont un impact vraiment sur vous. Donc il y a un vrai enjeu aussi de santé publique, en fait.
Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand la peur contre le coronavirus arrive, finalement?
Ben là, vous avez une partie de notre cerveau qui est une structure en forme d'amande ancestrale très profonde qui s'appelle l'amygdale limbique qui va s'exciter. Et donc là, c'est un moteur qui va surchauffer. Et là, on voit qu'il en surchauffe total. On est en sur-régime de tout ça. Et qui va après, justement, commander tout un tas d'actions, dont celle dont je vous parlais précédemment, qui va être la production de telle ou telle substance chimique dans le corps et qui est extrêmement énergivore. Et il se trouve que vous avez certaines personnes dans la population qui sont aujourd'hui mieux armées à ne pas se laisser trop contaminer par cette peur. Ce sont des personnes qui sont douées d'une forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il s'agit là en fait d'un ensemble de capacités mentales dont la particularité est de pouvoir notamment refroidir cette machinerie, de désexciter cette amygdale limbique, là où naît cette peur, pour se rendre compte que, OK, la peur, c'est utile. À un moment, OK, il y a un danger, j'ai bien saisi le truc. Je vais changer deux, trois choses dans ma vie. Par contre, je ne veux pas devenir prisonnier de cette peur-là. Je vais la mettre à sa juste place. Et les personnes douées de cette intelligence-là sont capables de régulation émotionnelle, donc sont capables de baisser l'intensité de la peur pour juste la transformer en une zone de vigilance qui ne va pas les amener à expérimenter des troubles psychosomatiques, des troubles du sommeil, des troubles de la digestion et tout un tas d'autres désagréments que j'évoquais précédemment. Et qui, ça peut aller très très loin. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes peu doué de cette intelligence-là et que vous êtes à longueur de journée kalachnikové par de la peur, bah derrière, ce que vous allez ressentir, ça va être un état d'inquiétude permanent, excessif, disproportionné. Le moindre détail de la vie quotidienne peut être source d'une angoisse incontrôlable. Vous allez être nerveux, développer un pessimisme. On le voit bien en ce moment, foutu pour foutu. Des troubles dépressifs, sensation d'être à bout, fatigue, difficulté de concentration, de mémorisation, irritabilité, on le voit bien, douleur et tension musculaire, insomnie, enfin, maux de tête, diarrhée, palpitations, maux d'estomac, gorge serrée, hyperventilation. Tout un tas de désagréments qui peuvent accompagner en fait cet état-là.
Mais donc cette régulation émotionnelle, en fait, est-ce qu'on peut la décider? On peut dire je vais faire
on
un peu de
travailler.
Un peu comme un thermostat, vous voyez, on dit je vais mettre en pause là.
On peut la travailler. Une des plus grandes découvertes en neurosciences sociales a un nom, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Et là, vous avez des chercheurs qui vous montrent que via des exercices, vous pouvez à un moment développer cette forme d'intelligence qui fera que vous serez un meilleur régulateur de la peur et que vous allez produire ou créer vos propres sas de décontagion émotionnelle.
Alors on verra tout à l'heure comment créer nos sas de décontagion émotionnelle. Alors on en parle avec vous ce matin, Christophe Hag, vous êtes notre invité jusqu'à 10h avec Patrick Soulaï, AVS sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Peur de l'épidémie ou épidémie de la peur. Ce matin, nos invités sont Patrick Soulaï, formateur en ProcessCom, et puis Christophe Hag, qui a écrit notamment La contagion émotionnelle aux éditions Albin Michel. La peur n'évite pas le danger et le courage non plus d'ailleurs. Finalement, avoir peur, ça ne change rien par rapport au danger.
La peur, ça vous signale juste qu'il y a un danger. C'est une information, c'est comme un panneau signalétique que vous pouvez avoir au bord d'une autoroute et qui vous signale un virage dangereux. Le problème, c'est que vous avez certaines personnes qui tiennent compte, et j'allais dire avec parcimonie, de cette information-là et qui vont décélérer. Et puis, vous avez d'autres personnes sur l'autoroute en voyant le panneau danger qui n'en ont rien à faire et qui vont continuer à appuyer sur le champignon. Bah, ces personnes augmentent la probabilité de se taper la rambarde un peu plus loin. Donc, cette peur-là, il faut la considérer, mais à nouveau, à sa juste valeur, à sa juste place et dans sa juste proportion.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Christophe Hack, quand vous dites que la peur est plus contagieuse que les virus ?
Écoutez, on est plus de 7 milliards sur cette petite boule bleue à capter et à transmettre en fait les émotions. Dès que vous interagissez avec quelqu'un, il y a transfert émotionnel, il y a contagion émotionnelle. Et je ne parle même pas de nos ancêtres qui, eux, déjà se passaient les émotions de tête en tête et de corps en corps. Donc, l'émotion, elle fait partie de l'interaction sociale. Donc là, il n'y a même pas besoin de vous positionner dessus ou quoi. Une simple mimique, un simple signal faible au niveau de votre expression faciale, une inclinaison de votre corps, une tonalité de voix qui change, un petit vibrato, un débit de parole qui est modifié, et boum, c'est qu'il y a une émotion qui s'exprime. Et cette émotion-là, par effet miroir, parce que vous avez envie d'être accepté par l'autre, parce que vous avez envie de socialiser avec l'autre, eh bien votre cerveau va vous dire, tiens, moi je veux un peu ressembler à l'autre. Donc imite-le, et en l'imitant, vous ressentez, vous capturez son émotion. Donc l'émotion, c'est aujourd'hui le virus le plus contagieux. L'émotion est beaucoup plus contagieuse que le coronavirus, que Ebola, etc. Maintenant, à nouveau, une fois qu'on sait ça, et qu'on sait qu'on est soit un agent pathogène d'un point de vue émotionnel, soit un receveur, derrière, il faut juste se poser cette question-là. Quelle est mon empreinte émotionnelle? Est-ce que je vais être un agitateur, un perturbateur? Est-ce que je vais mettre de l'huile sur le feu? Ou est-ce que derrière, je vais essayer aussi un petit peu de me réguler pour que ça parte pas dans des proportions gigantesques, notamment dans son cadre familial, que les enfants paniquent, qu'ils pensent plus qu'à ça, que ça les bloque, que ça les inhibe, etc. Donc là, on a tous une responsabilité, en tant que citoyen aussi, il n'y a pas que les politiques, dans notre gestion de la peur. À un moment, on est face à quelque chose là qui existe, un phénomène qui existe. Il y a des choses qui sont dites. Ce phénomène-là peut être aussi relativisé par rapport à d'autres épidémies. À nous de réguler cette peur pour qu'on ne devienne pas une société qui réagisse exclusivement sur ce mode-là.
Mais le fait d'en parler, finalement, c'est rassurant aussi, d'une certaine façon. Et le fait de l'alimenter pour les gens, il y a ce côté, j'ai de la combat en parlant.
Vous avez raison, parce que la première difficulté, on est dans un des pays où on a le plus de difficultés à mettre un mot sur ce qu'on ressent d'un point de vue émotionnel. On est presque handicapé là-dessus. On a des difficultés à dire si on est frustré, si on est serein, si on est apeuré, si on est jaloux, on a beaucoup de difficultés en France à labelliser nos émotions. Et le problème, c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin. Si le médecin ne pose pas un diagnostic sur votre maladie, comment voulez-vous que derrière, qu'il puisse poser une ordonnance qui soit efficiente, efficace? C'est la même chose, c'est-à-dire si on ne met pas de mots sur ce qu'on ressent, si on ne se dit pas, finalement, là, ce que je ressens, c'est vraiment de la peur, parce qu'il y a ça qui se passe en moi, etc., comment voulez-vous lutter contre cette peur, ou la réguler, ou la diminuer? Donc ça, c'est le premier geste écologique, sanitaire à avoir, c'est reconnaître qu'on ressent de la peur, et on est dans une société aussi, d'une certaine manière aussi un peu machiste, etc., où ressentir ce type d'émotion, des fois c'est presque un aveu de faiblesse, c'est presque, on se dit, on est faible, on est un peu faiblard. Non, cette peur-là, elle existe en nous, le reconnaître, c'est déjà un peu la soigner.
Vous parlez d'éducation, depuis tout à l'heure j'écoute et je trouve ça hyper intéressant. Ce que vous pointez du doigt, c'est le manque d'éducation sur nos émotions, en fait. Parce que... Comment ?
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, je parle d'éducation émotionnellement intelligente.
C'est ça.
Je trouve que dans notre système éducatif aujourd'hui, on devra apprendre le plus tôt possible à nos gamins à réguler les émotions. Et à nouveau, réguler, ça ne veut pas dire les refouler.
Exactement.
C'est simplement comprendre pourquoi elles viennent en nous. Quelle est l'information qu'elles ont à nous dire? Parce que ces informations-là ont un impact direct sur notre niveau de bien-être. Et derrière, être conscient que des fois, on peut les prolonger parce que ça va nous servir d'être dans cet état-là. Mais des fois, il faut sortir de l'autoroute émotionnelle sur laquelle on s'est engagé. Et plus tôt vous le faites, eh bien, plus tôt vous aurez un impact sur la société. Vous avez une psychologue et un économiste célèbre qui ont montré à travers une étude comme ça, longue dans le temps, longitudinale, que si très tôt on s'attaque à ce problème, qu'on développe les compétences émotionnelles de nos gamins, que ces gamins puissent très tôt jongler avec leurs émotions, etc., eh bien, on augmente de 10% le score national d'intelligence émotionnelle dans la population et on diminue de 10% les coûts de santé associés à des carences en intelligence émotionnelle et qui feront que bah, si vous manquez d'intelligence émotionnelle, bah, vous serez plus facilement anxieux et donc peut-être vous consommerez peut-être plus de boîtes d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, ce qui contribue très fortement à augmenter le trou de la sécurité sociale. Donc on est sur vraiment une question d'éducation, vous avez raison.
Ce que vous dites, en fait, c'est super intéressant parce que ça correspond, en fait, à ce que moi j'appelle et tous ceux qui exercent les sciences du comportement appellent des drivers, en fait. Les drivers, c'est ce que vous souriez tout à l'heure parce que vous parliez de des émotions qui nous conduisent. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que enfant, en fait. On a des questionnements psychologiques auxquels nos parents ne répondent pas parce qu'ils ne savent pas forcément qu'il faut y répondre. Et donc, on a différents drivers que nous créons enfants. Et à partir de là, eh bien, on est un peu conduit par ça. Et ces drivers-là, ce qui est intéressant, c'est que ça conduit aussi à une certaine peur. Je donne l'exemple, par exemple, d'un driver qu'on va appeler le soi parfait. Ce driver-là, c'est on a mis en place cette stratégie et on s'est dit, enfant, eh bien, pour que j'ai de la valeur, pour mes parents, il faut que je sois parfait. Donc, si j'ai l'impression de ne pas être parfait, bah, je vais commencer à stresser, je vais commencer à avoir peur. Et ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est ça, en fait, c'est que on a un manque d'éducation par rapport à tout ce qui se passe émotionnellement et psychologiquement enfant.
Alors, quand on parle de la peur du coronavirus, de quoi est-ce qu'on a peur exactement? Si on se questionne.
Là, c'est clairement, c'est la peur de la mort, hein, la plus grande de toutes les peurs. À l'époque, on avait fait un classement via un sondage sur des populations représentatives en France. Bon, c'est des peurs dominantes. Parmi les grandes peurs, il y a aussi la peur pour nos enfants. Je dirais qu'il y a la peur de la mort et la peur pour nos enfants, qui est très très forte, et peut-être aussi la peur pour nos aînés, même si on est dans une société aujourd'hui qui délaisse totalement ses aînés. Mais je voulais revenir sur quelque chose d'important, parce que quand on veut classifier un peu la peur et se dire, tiens, à quoi elle est rattachée, vous avez parlé avant de la relation parent-enfant. On est dans une société... Aujourd'hui, alors je vais parler de la grande parentalité, mais où derrière, il y a une espèce d'abandon affectif.
Exactement.
On consacre de moins en moins de temps à ses enfants ou à ses petits-enfants. Et on voit, aujourd'hui, on a des grands-parents qui vivent leur grande parentalité de manière très moderne, en voyage, alors peut-être un peu moins en ce moment parce qu'on a peur d'aller à l'étranger. Mais derrière, on se dit, on veut vivre sa vie zen, on ne veut pas s'embêter avec la logistique des petits-enfants, etc. Mais en faisant ça, on ne crée plus de liens affectifs avec eux et on ne crée plus ce que j'appelle moi des valeurs psychiques refuges. Et ces valeurs psychiques refuges, justement, ces valeurs-là, c'est des souvenirs heureux de nos relations avec nos grands-parents, etc., qui viennent s'inviter dans le débat lorsque vous ressentez précisément de la peur et qui vont vous permettre d'agir un peu comme un ressort ou comme un espèce de trampoline pour vous faire rebondir. Et là, aujourd'hui, On a des gamins qui, parce qu'ils n'ont plus d'albums photos, de souvenirs ressources, qui viennent leur donner du pep, de l'énergie, qui font qu'ils se redresseront, qu'ils seront plus résilients, parce qu'il y a quelque chose d'heureux en eux, et ben sans cet album photo-là, ben on cède plus facilement à l'anxiété et on est plus facilement à terre, en fait, psychiquement. Donc là, il y a aussi un rôle global des parents et des grands-parents de se dire, ben oui, mais réinvestissez affectivement dans vos gamins, passez du temps avec eux, vos enfants, vos petits-enfants, parce que derrière vous musclerez juste leur ressort de résilience qui, dans des épisodes comme cela, leur permettront un moment de jauger et de réguler efficacement la peur. Et ça, on le fait pas à temps. Et donc là, voyez, voilà, j'accuse aujourd'hui d'une certaine manière les grands-parents de ne pas faire le job et d'aujourd'hui d'avoir une génération de moins de 15 ans qui sont totalement désarmés par rapport à ce qui arrive là. Parce que quand vous êtes à la maison, que papa ou maman allume la télé, qu'on entend parler que de ce coronavirus, etc. À nouveau, je reviens sur l'infobésité et la responsabilité aussi hein, des médias dans cette histoire.
Alors l'infobésité, pour tout le monde,
C'est le fait que voilà, H24, on vous ressasse les mêmes news sur des fonds sonores très anxiogènes, avec voilà, c'est le générique des dents de la mer, quoi. Hein. Et derrière, vous avez votre cerveau, il s'imbibe de ça non-stop. Et c'est comme après un moteur de bagnole. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il est en sur-régime, en surchauffe, ben, à un moment, ça, tout ça peut un peu partir en cacahuète.
Mais est-ce
ben,
que,
est-ce capte tout ça.
Mais est-ce qu'on peut imaginer, Christophe Hague, que les gens aiment ça, finalement, qu'il y a une forme de jubilation à se faire peur?
Je pense qu'ils ne l'aiment pas. Ils en sont plus. C'est plus une forme d'addiction. Vous savez, c'est la différence entre le plaisir et l'addiction. Aujourd'hui, on est nos médias sont c'est un casino géant en fait, et on est tous des joueurs de casino, et on attend tous un moment, et je pense qu'on attend tous au fond de nous un événement heureux. Mais avant de passer par là, ben faut passer à la caisse. Il faut jouer, faut mettre beaucoup de sous. Les sous, c'est notre temps de cerveau disponible dans la machine à sous, en attendant qu'à un moment les pièces tombent. Mais on attend quand même tous, et là je reste optimiste, que les pièces tombent. Qu'il y a un événement heureux. Mais derrière, on sait bien nous attirer. Et puis à nouveau, la peur, vous savez, la peur, elle focalise votre attention. C'est la peur, la surprise vous amène à... Voilà, elle va retenir votre attention. Elle va vous allez être focus là-dessus parce que vous savez qu'il y a... Voilà, il y a une menace, il y a quelque chose qui se joue pour vous. Donc vous êtes en recherche d'informations. Donc vous êtes carrément, d'un point de vue attentionnel, réquisitionné en fait. C'est presque un syndrome de stockage. Vous tombez presque amoureux, mais pas au sens noble du terme, de votre kidnappeur. Et aujourd'hui, les médias nous ont kidnappé notre temps de cerveau dispo là-dessus.
Les médias, les réseaux sociaux, enfin tout, hein, tout ce qui communique de l'information. Hein.
Exactement. Et j'ai envie de vous dire, en plus, lorsque vous êtes sur des émotions comme la peur, comme la colère, l'anxiété, etc. Vous êtes sur des émotions, on l'a dit au début, mais extrêmement contagieuses. Vous avez un psychologue célèbre qui disait la chose suivante et qui aujourd'hui s'applique. Il disait, le cerveau humain, il agit sur les expériences négatives et les émotions désagréables et négatives comme du velcro. Et il agit sur les expériences positives comme du téflon. Tout est dit. C'est-à-dire que quand la peur, elle s'invite chez vous, elle est extrêmement difficile à décroter. Elle est très contagieuse. Et en plus, une fois qu'elle est en vous, elle est difficile à décroter. Donc, on devient un peu prisonnier de cette émotion-là.
On verra Christophe Hague dans un instant. Quel est votre antidote, justement, pour lutter contre cette peur?
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
La peur de l'épidémie ou épidémie de la peur, aujourd'hui avec Christophe Hague, qui est notre invité. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle « La contagion émotionnelle visionnaire » hein, chez Albin Michel, que Patrick Soulaye est avec nous. Est-ce qu'on est rentré dans ce que vous appelez, vous, le « hum émotionnel négatif » ?
On est en plein dedans. Alors le « hum », c'est quoi ? H-U-M, c'est à la base, c'est un bourdonnement sourd qu'on entend ici et là sur la planète. Et qui est interprété par les catastrophistes comme la fin des temps. Voilà, l'idée de base, c'est de se dire, à force de taper sur la terre, de taper dans ses ressources, de la maltraiter, elle se rebiffe. Moi, j'ai juste transposé cette notion-là à quelque chose de plus psychologique, et en disant qu'aujourd'hui, on a un trop-plein d'émotions négatives. Donc là, on l'expérimente aujourd'hui avec la peur liée à ce virus, qui crée un dérèglement psychique. À un niveau planétaire. Et moi, j'appelle de mes voeux, et c'est ce que ce livre d'espoir tente de proposer, c'est des points d'équilibre, c'est un rééquilibrage. C'est Star Wars, quoi, hein, l'équilibre dans la force, ne pas se laisser happer par le côté obscur de la force qui vous fait faire tout un tas de conneries quand vous avez franchi certains seuils d'intensité et qui rend les gens totalement instables et fous, quoi.
Là, c'est ce qu'on appelle la contagion négative. Mais là, pour le coup, vous passez de la théorie à la pratique, puisqu'on a vraiment le cas réel et que l'épidémie, en tout cas l'épidémie de peur, elle est mondiale aujourd'hui.
elle est mondiale et je pense que elle passera, le rééquilibrage passera par un rééquilibrage presque climatique, j'ai envie de vous dire, écologique. On se rend compte qu'aujourd'hui, le fait de déforester, le fait de cette urbanisation grandissante qui nous coupe de plus en plus des espaces verts, crée en fait un déséquilibre psychique. On avait un antidote à dispo, naturel, gratuit, voilà, à côté de nous, qui nous permettait à un moment d'avoir, de faire baisser notre pression artérielle, de faire baisser notre colère, notre angoisse, les palpitations cardiaques, etc., l'intensité de ce trop-plein émotionnel. Bah aujourd'hui, on est un peu coupé de tout ça, notamment dans les grandes villes. Bah peut-être que se rapprocher de tout ça serait un bien nécessaire. Tout va ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire que l'équilibre psychique, il est intimement lié à l'équilibre climatique. Et lorsque vous tapez dans l'un, vous abîmez l'autre, en fait. Et là, on est en plein dedans. Et pour moi, cette gestion de la peur aujourd'hui, qui est un peu catastrophique, elle est aussi la résultante de la maltraitance environnementale, tout simplement. Et pour ça, bah voilà, moi je me dis, quand vous avez un peu, si à force de regarder tout un tas de news, ou que plein de gens s'alarment, etc., par rapport au coronavirus, et qu'il y a un trop-plein, que vous dormez mal, que ça dure et dure des jours et des jours, bah allez faire un petit tour dans la forêt, ne serait-ce que quelques minutes. Vous allez voir, vous allez respirer des phytoncides, votre cerveau va entrer en résonance avec les oscillations des petites feuilles, le chant des oiseaux. Vous avez tout un tas d'études sérieuses qui s'intéressent à ça. Et vous allez derrière calmer, en fait, cette peur, mais de manière drastique. Et après, c'est reparti pour un tour et vous serez beaucoup mieux dans vos baskets. Vous dormirez mieux, vous récupérerez mieux, vous régulerez mieux, en fait, tout ça. C'est un anxiolytique naturel. Moi, je compare souvent le pouvoir de la nature et le contact avec la nature à ce pouvoir thérapeutique qu'avait John Coffey, qui est ce héros, ce grand acteur black américain dans ce film La Ligne Verte avec Tom Hanks, et qui était capable, chaque fois que quelqu'un allait le voir pour un problème, eh bien de transformer ce problème en quelque chose de positif. La nature, elle a ce pouvoir-là. Ben, essayons de la réhabiliter un peu plus dans nos mœurs, quoi. Après, il y a d'autres choses qui existent. Nous, on a créé, par exemple, avec une chercheuse, Moira Nikolasek à Louvain, on a créé une application pour smartphone qui est totalement gratuite, il n'y a pas de pub, il n'y a aucun bénéfice financier derrière ça, et qui s'appelle Dr Mood, DR, plus loin Mood, M-O-O-D, comme l'humeur. Et cette application, elle vous permet en moins d'une minute d'identifier l'émotion que vous ressentez à un instant T, comme par exemple la peur, l'angoisse, derrière de vous expliquer ce qu'est cette émotion, quels sont les bénéfices et les inconvénients à ressentir ce type d'émotion. Et si nécessaire, s'il y a un trop-plein de cette émotion qui peut être totalement dysfonctionnelle, qui peut vous amener à faire tout un tas de choses qui ne vont pas vous aider à vous adapter ou qui vont avoir un contre-coup d'un point de vue santé, eh bien, vous propose des petits exercices à faire chez soi, au boulot ou dans la rue, et voilà, qui vont vous permettre de réguler l'intensité de cette émotion-là. Et à nouveau, on est sur cette idée de d'abord posons un diagnostic sur l'état émotionnel qui est en train de nous envahir. Et derrière, regardons, une fois qu'on a identifié le problème, bah comment est-ce qu'on peut régler le problème.
Alors, à noter, livre, Christophe, que cette application est non addictive. Hein.
Elle est non addictive.
Faut le dire.
L'objectif. Ouais. Et ouais, non, mais vous avez raison, parce qu'effectivement, on soigne un peu le mal.
Parce que
par
si on
mal,
combat le mal par le mal, vous voyez.
Effectivement, on combat le mal par le mal, mais on le dit bien. Et ça, c'est. Effectivement, on tient à ce discours-là et on l'observe. On a plein de retours d'utilisateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement que vous utilisiez cette app. Je sais, le temps nécessaire, ça peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais à un moment, il faut s'en détacher. L'idée, c'est juste que votre cerveau, il puisse s'imprégner, enregistrer tout un tas d'exercices à faire, soit de la respiration abdominale, que ce soit des exercices de visualisation corporelle, des exercices plus psychologiques, qui sont plus liés à des thérapies comportementales, etc. Mais que vous puissiez juste les enregistrer, les stocker dans votre mémoire pour pouvoir les utiliser après de manière autonome et de manière totalement indépendante. Et dans le livre, dans mon dernier livre, vous avez tout un chapitre. À nouveau, effectivement, on n'avait pas encore anticipé cette épidémie-là du coronavirus, mais là, ça s'applique parfaitement. On a créé, avec Moira Nikolasek, un sas de décontagion émotionnelle en 7 étapes qui vous permet justement de décroter ce trop-plein de peur qui à un moment peut à nouveau vous être néfaste. Et vous avez 7 étapes à suivre qui commencent par le fait de dédramatiser, le fait de s'efforcer aussi d'accepter cette tension parce que voilà, il y a quelque chose, le fait de se préserver d'abord soi en premier avant de vouloir aider les autres, de s'isoler, et là on propose des méthodes pour s'isoler psychiquement, émotionnellement, de nommer l'émotion, on l'a déjà dit avant, de bien étudier la situation d'un point de vue émotionnel et de pas tomber dans des mauvais réflexes. Derrière, de rejoindre après les gens qui sont peut-être, eux, encore soumis aux lois quasi-gravitationnelles de la peur pour les aider, etc. Donc, c'est un protocole qui est très simple à mettre en place, qui est issu de la recherche académique, scientifique, qui est utilisé dans des programmes aujourd'hui dans certaines universités, business school ou ailleurs, qui a démontré son efficacité et qu'on a voulu rendre le plus digeste possible pour nos lecteurs, en fait.
Voilà, sous l'acronyme DEMINE.
Exactement.
Qu'est-ce que fait le cerveau une fois qu'il a inscrit et intégré une peur en lui ? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, ça voudrait dire que finalement, les hommes arrivent à tirer des leçons de la peur qu'ils viennent de vivre. Mais est-ce que finalement, une fois que la peur est passée, le cerveau continue sa vie et puis fait comme si de rien n'était et continue comme avant ?
Non, parce que si cette peur, elle a été suffisamment intense, alors là, je ne parle pas des seuils traumatiques ou des phénomènes de blackout, etc. Mais en fait, ce souvenir-là, il va s'inscrire dans une base de données. Moi, j'appelle ça un album photo. C'est le même album photo dont je vous parlais précédemment dans la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Donc, c'est des photographies mentales qui s'inscrivent et qui vont être associées à un contexte particulier. Et donc là, en l'occurrence, à l'épidémie, à tout ce que vous pouvez voir autour de cette épidémie. Donc, ça va ouvrir un tiroir très particulier qui est lié à ça. Et dans le futur, parce que une chose est certaine, c'est que c'est pas la dernière des épidémies que notre société va vivre, et il y en aura d'autres, peut-être plus graves aussi. Et bien derrière, ça va à chaque fois réanimer, réouvrir ce tiroir-là, et là vous allez, votre cerveau va se dire, attends, comment je me suis comporté dans le passé? Est-ce que j'ai cédé à la panique ou pas? Quelle était ma gestion de la peur? Est-ce qu'elle était bonne ou pas bonne? Ma gestion personnelle, la gestion avec par exemple mes enfants ou avec les autres gens, est-ce que quelle était l'image que je renvoyais? Est-ce que j'étais un agent pathogène qui renvoyait encore plus de peur à la peur, etc. Et en fonction de ça, votre cerveau, il va essayer de corriger tout ça et de réutiliser finalement ce qui avait plutôt bien marché dans votre gestion de la peur. Ça, c'est lorsqu'on est plutôt doué d'intelligence émotionnelle. Quand on n'est pas doué de ça, il y a un risque quand même de répliquer les mêmes erreurs du passé et derrière de systématiquement tomber dans le piège. Donc je rajoute ça juste dans l'équation, cette capacité mentale qui vous permet à un moment d'avoir un petit peu de recul sur les choses et qui vous permet de se dire voilà ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, une espèce de judge dread de ce qui a marché et pas bien marché. Et là vous avez des gens plus capables que d'autres, malheureusement c'est comme ça, dans la société, d'avoir cette espèce de vision en contre-plongée et de se dire là je garde ce qui a marché finalement.
Entourez-vous de gens qui n'ont pas peur aussi.
Exactement.
C'est contagieux.
C'est contagieux et effectivement, et d'ailleurs on se rend compte, notamment en situation comme ça de crise, parce que là c'est ce qu'on vit, hein, c'est une crise planétaire, c'est que les personnes émotionnellement intelligentes qui gèrent bien leurs émotions, qui vont être dans des messages d'espoir, qui vont beaucoup surfer aussi sur l'espoir, qui vont voir le verre plutôt à moitié plein, qui vont proposer sans être naïfs non plus, eh bien ces personnes-là sont les personnes les plus targetées, les plus recherchées. Si vous regardez, si vous avez une espèce de toile d'araignée de leur réseau social, alors je ne parle pas du réseau social sur le net, mais voilà, des gens qui les côtoient, etc., ce sont les personnes qui ont le réseau le plus touffu. Tout le monde veut, ce sont des rockstars psychiques. On veut tous être à leur côté parce que ces personnes-là nous font du bien. Ce sont des antidotes. Elles devraient être remboursées par la sécurité sociale, d'une certaine manière. Donc là, on cherche à être à leur côté parce que ces personnes-là vont nous contaminer positivement. Et on manque de personnes comme ça. Mais à nouveau, si dès le plus jeune âge, on s'intéressait à ce type, à cette forme d'intelligence et au développement de cette forme d'intelligence en travaillant sur l'empathie, en travaillant sur la régulation émotionnelle, sur la recherche de consensus, sur le goût de l'autre, si cher à Bakri, eh bien derrière, on augmenterait la concentration.
Bakri, c'est Jean-Pierre.
De maître Jedi. Voilà, Jean-Pierre Bakri, voilà. De ces Jedi des temps modernes, et qui ferait un bien fou à cette société aujourd'hui alarmiste et qui peut très rapidement perdre la boule.
Bon, on va allumer un contre-feu émotionnel, là.
C'est tout ce que je nous souhaite.
Et on cherche le vaccin anti-peur, bien sûr, hein, puisque ça, c'est aussi important de pouvoir... Mais c'est vrai, s'entourer de gens qui, voilà, qui font face.
Tout à fait.
Alors,
nouveau, on a tous un rôle à jouer là-dedans. On a tout... Quand on voit qu'un être humain face à un char peut provoquer un mouvement mondial de prise de conscience, etc., eh ben, utilisons peut-être aussi les réseaux sociaux pour diffuser des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus mesurées et qui permettent de retrouver l'équilibre dans la force émotionnelle.
Bon, tous à vos sas de décontamination. On rappelle le nom de votre application, Christophe.
Donc, Dr Mood, M-O-O-D. Et c'est une appli, à nouveau, qui est gratuite, qui s'utilise très facilement sous Android, sous iOS. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Ce n'est pas une app qui rend addictif. Elle est là à nouveau pour rattraper le temps perdu et nous rééduquer. C'est une séance de rattrapage, en fait, de ce qu'on n'a pas eu peut-être au niveau de l'éducation nationale à un instant T et qui nous aurait permis plutôt de comprendre certaines lois émotionnelles ou logiques émotionnelles qui aujourd'hui dépassent certains d'entre nous.
Bien, coupez la télé, lisez des livres, c'est bon pour la tête. Vous pouvez lire « La contagion émotionnelle » de Christophe Haag, par exemple, chez Albin Michel.
Merci Philippe.
Merci Christophe d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Philippe. Merci Christophe.
Merci, à bientôt. Welcome back Christophe. Et à très bientôt. Merci. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.